La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous de débat consacré à l'actualité nationale. Trois invités comme d'habitude dans cette émission. Je salue pour commencer Alice Carré, co-secrétaire régional des écologistes Midi-Pyrénées. Je salue aussi Mohamed Mafri, adjoint maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse. Et je salue enfin Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'université Toulouse-Capitole, producteur et animateur de l'émission À bâton rompu sur Radio Présence. Bienvenue à tous les trois, merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. Le droit français a été récemment au centre du débat politique à la suite de déclarations des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Après l'annulation, par décision de la justice française, de l'expulsion de l'influenceur algérien Doualem, Bruno Retailleau a estimé que l'état de droit avait été dévoyé. De son côté, Gérald Darmanin, lors d'une interview sur BFM TV, a jugé qu'être français, ça ne peut pas être automatique, en souhaitant qu'un enfant né en France, de parents nés à l'étranger, puisse exprimer une volonté pour devenir français. Il a ajouté que le débat public doit s'ouvrir sur le droit du sol dans notre pays. Ces propos des deux ministres sur l'état de droit pour l'un et sur le droit du sol en France pour l'autre ont suscité quelques remous dans la classe politique, les médias et l'opinion publique. Est-ce qu'ils vous ont choqué aussi ou considérez-vous que le débat peut, voire doit être ouvert sur ces deux principes tels qu'ils existent aujourd'hui dans notre pays ? Je donne tout de suite la parole à Alice Carré.
Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, pour répondre à votre question, moi, je pense vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement choquant de la part de ces deux ministres d'entendre des propos pareils. Donc, déjà parce que le droit du sol, on considère chez les écologistes que c'est un des piliers de notre République. Donc, ça nous a choqués parce que, en fait, petit à petit, on franchit des lignes, on brouille des repères, et puis finalement, on légitime aussi un petit peu des idées d'extrême droite. Il y a eu quand même beaucoup de lois immigration depuis les années 80, 21, je crois. Et donc, vraiment, ces lois immigration, ça n'a rien changé. Et à chaque fait divers ou prise en compte par les médias de certains faits, on remet une couche sur le sujet et on souhaite de nouveau remettre en cause certains droits qui étaient, qu'on pouvait considérer acquis. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une politique du chiffre et du spectacle. Après, par rapport à tout ce qui est état de droit, donc c'est choquant parce que ça remet aussi en cause la justice, les institutions. Donc c'est quand même assez désolant de la part de ministres de faire ça, notamment parce que c'est assez grave de remettre en cause les institutions avec lesquelles on travaille, qui doivent rester indépendantes et avoir des moyens pour fonctionner. Et on a vu que ça avait été déjà le cas aussi avec l'OFB, l'INSEE, notamment le Premier ministre a remis en cause un peu leur méthode de fonctionnement. Et donc, nous, on trouve ça vraiment très grave de fonctionner de la sorte par des phrases dans la presse plutôt que d'avoir du dialogue avec ces institutions.
Voilà, donc c'était l'avis d'Alice Carré qui est assez tranché dans un sens. Il n'y a pas de nuance dedans, mais bon, on va voir Mohamed Mafri. Peut-être que vous êtes d'accord avec elle sur certains points et pas sur d'autres. Dites-nous.
D'abord, bonsoir et merci de votre accueil. Je suis très content de venir à cette émission radio, très intéressante et passionnante et riche, et je vous en remercie encore, Monsieur Dupri. Le critère de l'acquisition de la société française, bon, pour moi, ce thème-là, il doit pas être tabou. Voilà, déjà. Pourquoi ? Je dis ça parce que, tout simplement, des échéances électorales ont eu lieu. Et les Français se sont exprimés. La France, c'est objectif, ce que je vais dire, se droitise. 11 millions d'électeurs au RN. Ça veut dire que dans votre environnement, Monsieur Dupri, vous avez une personne sur cinq qui a voté RN, elles oratisent. Les sondages s'expriment aussi. Alors, chacun prend les sondages selon ses opportunités. Moi, j'ai essayé d'analyser tous les sondages de plusieurs instituts, gauche, droite, etc. Et il se trouve que même à gauche, ce sujet-là, être français, sujet d'immigration, remonte. Moi, je ne suis pas partisan de mettre ce sujet comme un sujet tabou. Si on reprend l'affaire Doualem, parce que vous êtes parti de ce sujet-là, voilà. L'affaire Doualem, c'est un surnom qui est donné à ce pseudo-influenceur. C'est un maire socialiste, Michael Delafosse, avec dans sa majorité des élus écologistes, qui signale cet influenceur. Donc je reprends ce que je dis en introduction. Je n'utiliserai pas les, les positions ni dogmatiques, ni pavloviennes en disant c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, etc. C'est un maire socialiste, et j'insiste dessus, un excellent maire, M. Delafosse, à Montpellier. Maire de Montpellier, qui fait un excellent travail, notamment sur les valeurs de la République, et qui s'appuie donc sur l'article 40 du Code pénal de l'autorité judiciaire. Incitation à la haine, appel au meurtre pour celles et ceux qui se manifestent contre le pouvoir algérien. 140 000 abonnés, ce monsieur. Voilà. Donc à partir de là, ce sujet-là, il doit paraître tabou. Pour autant, la question du droit du sol, du droit du sang, ma collègue vient de le dire tout à l'heure, parfois, bon, on a de l'instrumentalisation, hein, on sait qu'il y a des échéances électorales qui arrivent, on sait que ce sujet-là, depuis des années, si on essaie de pas trop faire d'histoire, depuis le début des années 80, la période post-Mitterrand, on sait que le discours lié à l'extrême droite est souvent instrumentalisé et utilisé à des fins électoralistes, mais sur le fond, il n'est pas traité. Moi, sur la forme, ce sujet-là, j'aimerais qu'on l'aborde aussi d'une autre manière. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi-même, je suis un enfant de l'immigration, et ce pays-là, j'ai pu voyager dans plusieurs autres pays, je peux vous garantir que quand même, on est dans un pays cosmopolite, mais surtout qui rayonne aussi par sa qualité d'accueil, d'intégration, et quoi que l'on dise, un pays où il fait bon vivre aussi. Et donc, dans cette approche-là, moi, je rêverais aussi qu'on aborde ce sujet aussi à travers, j'ose le dire, un contrat républicain, quoi. Et utiliser aussi, je n'entends pas assez, moi, de la part des politiciens, notamment députés, des élus politiques à caractère national, hein. J'entends pas le respect des valeurs de la République. On part des Lumières, Diderot, Voltaire, Montesquieu, ce que vous voulez, jusqu'au respect aussi des valeurs de la laïcité, jusqu'au respect aussi de l'égalité femmes-hommes. C'est des sujets comme ça sur lesquels on doit remettre sur la table, et quel que soit le prénom ou le nom de la personne, qu'on s'appelle Mohamed, Youssouf, Mustapha, Bérangère ou ce qu'on veut, etc. Je pense que remettre les valeurs de la République au centre du jeu permettront déjà d'asséner et d'atténuer un petit peu aussi ce sujet, de l'instrumentaliser uniquement via le levier de l'immigration. Autre sujet, en fait, aussi, qui me semble aussi important, je parlais d'égalité femmes-femmes, de la radicalité, de la laïcité aussi. Ce sujet-là aussi, et éviter aussi ce sentiment, c'est plus qu'un sentiment pour moi, où le pays glisse, de communautarisme. Communautarisme à caractère religieux, ethnique, social. Et il y a besoin aussi de retrouver ce pacte républicain et ce fameux contrat républicain sur lequel j'espère on va pouvoir travailler. On parle de référendum prochainement. Moi, c'est un thème sur lequel voilà, je voudrais qu'on abonde. Voilà. Concernant l'immigration, il y a un autre sujet aussi que je voudrais aborder, parce que je suis peiné, moi, et je ne dis pas ça uniquement parce que je suis aussi un enfant de l'immigration, mais je parle aussi de l'immigration invisible, et tristement, dont on n'évoque pas souvent. Si vous allez dans les restaurants toulousains, vous allez voir dans les arrières-cuisines, vous allez voir très 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 peu de Philippe ou de Stéphanie.
Et parfois on le voit effectivement.
Voilà, donc et l'économie, et alors ce qui est assez comique ou tristement comique dans cette affaire-là, c'est que ce sont les responsables du MEDEF qui eux-mêmes demandent la régularisation de ces personnes. Donc ce sujet est beaucoup plus complexe et beaucoup plus délicat. Et j'ose dire aussi que, voilà, quand je parle du contrat républicain, quiconque ne respecte pas le contrat républicain doit être en effet sévèrement puni, et quel que soit son prénom. Voilà. Donc j'espère que cette réflexion-là, ce débat-là, va être beaucoup plus approfondi. Pas uniquement par des stratégies et des joutes verbales et des claquements de pieds et d'autorité. On sait que ça ne suffit pas. On a vu l'histoire du Karcher, on a vu tous ces sujets-là. On sait, le message a été envoyé et de façon très forte. On sait qu'il y a besoin d'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas être de droite ni de gauche. Je rappelle que ceux qui sont victimes d'insécurité, ce sont les couches populaires qui vivent dans les quartiers populaires et qui demandent de l'autorité. Voilà. Et souvent, issus de l'immigration. Voilà. Donc j'espère qu'on va avoir des élus courageux qui vont pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là, qui vont dépasser les ethnies aussi, et encore une fois, comme fil conducteur, les valeurs de la République.
Très bien. Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'aspect état de droit et le fait que Bruno Retailleau a critiqué une décision de justice, parce que ça, il me semble important qu'on y revienne. Bruno Cyr. Alors, deux premières interventions, je ne vais pas dire qu'elles sont diamétralement opposées, mais qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Où vous vous situez, vous ?
Moi, je voudrais d'abord recentrer le débat sur la question. Initiale, oui. La question, c'était le droit du sol. Et là, on est parti sur beaucoup de choses. Et je voudrais dire que, contrairement à ce qui a été dit, peut-être, enfin même tout à fait, il ne faut pas tout mélanger. Évidemment, sur des sujets sensibles comme ça, une partie de l'échiquier politique, et les Verts viennent nous en faire la démonstration, font preuve d'une intolérance maximum à l'égard des gens qui posent seulement des questions. Et tout de suite, comme on ne pense pas comme eux, ou qu'ils pensent qu'on ne pense pas comme eux, ils vous traitent d'extrême droite. Moi, je trouve ça absolument hallucinant. Donc, M. Retailleau est quelqu'un d'extrême droite, M. Darmanin est quelqu'un d'extrême droite, moi, je suis sûrement quelqu'un d'extrême droite, puisque je n'adhère pas à toutes les thèses de l'extrême gauche. Donc, quand on n'est pas à l'extrême gauche, c'est qu'on est à l'extrême droite. Bon, il faut rester sérieux. C'est pas comme ça qu'on traite les problèmes de fond. Deuxième chose, c'est on vous brandit les valeurs de la République. Voilà. Alors, le droit du sol, c'est un des fondements de la République. Absolument pas. Les valeurs de la République, elles sont écrites sur tous les frontons de mairie. Hein, c'est liberté, égalité, fraternité. On peut y rajouter laïcité. On n'a jamais dit que le droit de sol était une valeur de la République. Mais ça fait partie de la rhétorique de ces courants extrémistes. Un, il faut penser comme eux, sinon on y est diabolisé. Et deux, on brandit tout de suite des grands totems, les valeurs de la République, sans trop savoir ce qu'on met derrière, et c'est un grand totem. Et comme ça, on ne traite pas les sujets de fond. Or là, il y a un vrai sujet de fond. Et ce vrai sujet de fond, il est parti du problème de Mayotte. Et quand on voit effectivement les Comores qui ont complètement colonisé d'une certaine façon Mayotte, et les Mahorais qui trouvent que c'est plus possible d'accueillir tout le monde et on ne peut pas faire comme ça, eh bien, ils posent cette question, et ce n'est pas en brandissant des valeurs de la République, en disant « il ne faut rien toucher à rien » ou alors « vous êtes d'extrême droite, donc vous avez le droit de vous taire » et point barre, qu'on réglera le problème des Mayotins. Hein, les problèmes des Mayotins, c'est un vrai problème. Et ce problème, il a aussi un impact en France, qu'on le veuille ou non. L'Afrique est en pleine croissance démographique. Il y a malheureusement en Afrique une traite qui est faite des Noirs. C'est une forme d'esclavage moderne, particulièrement des Noirs, mais les Maghrébins aussi. Et il faut voir le racisme du Maghreb à l'égard des populations noires. Je vous signale, hein, tous les rapports qui arrivent pour dire que les Noirs sont rejetés de Tunisie,
très vrai en Tunisie.
Oui, de Tunisie, mais d'Algérie aussi, etc. Donc, ils arrivent ici, ils nous traitent de racistes, mais eux, ils viennent de pays où ils le sont bien plus que nous. Donc, tout ça, il faut arrêter les clichés, il faut arrêter de diaboliser les gens pour éviter de parler des problèmes de fond. Il faut parler des problèmes de fond. On a un problème qui est lié à une immigration non contrôlée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et moi je l'ai vu en tant qu'universitaire, beaucoup de gens qui arrivent en France, le premier truc qu'ils veulent faire, c'est de se marier, d'avoir un enfant, et comme ça, ils sont tranquilles, ils peuvent rester en France, l'enfant est français, etc. Donc on peut toujours fermer les yeux sur tout ça, mais ça pose des problèmes d'intégration. Et il y a un moment où effectivement, si on ne traite pas, si on n'accueille pas les gens comme il convient, parce que moi je veux bien accueillir les gens, mais à condition qu'on ne les mette pas sous les ponts ou dans des tentes quechua sur les aires vertes des grandes villes. Parce que ça, ce n'est pas une façon digne de traiter les gens. Donc la France a une capacité d'accueil qui n'est pas illimitée et il faut qu'elle régule ce problème. Je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. J'ai un ami qui est viticulteur. Moi, je suis issu d'une famille de viticulteurs dans le Lot. Et il avait un ouvrier algérien qui travaillait avec lui depuis 15 ans. Et un jour, cet ouvrier algérien, il dit « Ah, je vais au Maroc, je crois que c'est un Marocain, ou un Algérien, peu importe, parce qu'il faut que je marie ma fille là-bas. » « Ah bon ? » ?»« Ah ben oui, elle vaut cher là-bas, tu sais. Et pourquoi elle vaut cher ? » ?»« Ah ben parce qu'elle donne la nationalité. » Donc, Donc la fille, il est allé vendre sa fille au Maroc pour que le mari puisse avoir la nationalité. 6 mois après, il a divorcé et il a refait. Alors la deuxième fois, elle valait moins cher parce qu'elle était plus vierge. Donc voilà, c'est ça aussi la réalité. Tous ces problèmes-là, les Français les constatent. On peut toujours crier des cris d'orfraie, dire c'est pas bien, etc. Je crois qu'il y a un vrai problème, il faut le traiter. Le droit du sol, il ne peut pas être un sauf-conduit pour venir s'installer en France. Il y a un certain nombre de valeurs dans ce pays, il y a une culture dans ce pays auxquelles les Français sont attachés. Et la moindre des choses, c'est que les gens qui veulent venir s'installer ici doivent adhérer à cette culture. Et quand, pour revenir encore une fois au sujet, M. Boualem...
Boualem,
qui avait été expulsé... Voilà un Algérien qui arrive en France et qui critique la France et qui dit qu'il faut tuer les Français. Donc, vous croyez vraiment qu'on a besoin de ces gens-là dans notre pays ? Non, moi, s'ils ne sont pas heureux dans notre pays, qu'ils retournent chez eux. Mais ils ne veulent pas y retourner chez eux. Et quand ils retournent chez eux, les Algériens disent « Ah, mais nous, on n'en veut pas de ce gars-là », alors qu'il est Algérien. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser les choses faire comme ça.
Donc, vous trouvez que Bruno Retailleau a eu raison, en tout cas, de, si ce n'est de critiquer, d'émettre une certaine opposition à la décision de justice qui a été prise, qui est donc a fait que M. Doualem n'est plus expulsable aujourd'hui.
Oui, oui, je pense que c'est. Il a eu raison de dire que ce n'est pas normal, parce que il y a un moment où il faut que l'État puisse se faire respecter. Or, là aussi, revenons au sens des mots. Qu'est-ce que ça veut dire un état de droit ? Un état de droit, c'est un état dans lequel l'arbitraire n'est pas possible. C'est-à-dire, il y a du droit. Le droit, ce n'est pas quelque chose de figé dans le marbre éternellement. Ça évolue tous les jours. Hein. L'Assemblée nationale, le Sénat passent leur temps à faire des lois, à modifier les lois, etc. Donc le droit est quelque chose de vivant. Et ensuite, il faut un État fort qui fasse respecter les lois. Alors le problème, c'est que l'État qui doit faire respecter les lois, il ne faut pas que les juges en permanence se mettent en travers avec des appréciations du droit qui sont quand même assez surprenantes, si vous voulez. Et surtout que je trouve que en France, malheureusement, il y a une partie de la justice qui a dérivé, c'est-à-dire qu'elle est censée rendre la justice au nom du peuple français. Mais elle ne tient absolument pas compte de l'opinion des Français. Or, sur cette affaire précisément, je suis sûr qu'il y a 90% des Français qui ne veulent plus voir ce type-là, puisque ce type appelle au meurtre et appelle à se révolter contre les Français. Donc comment est-ce qu'un juge peut décider contre 90% des Français alors qu'il est censé rendre la justice au nom du peuple français ?
Alors, c'est-à-dire qu'un juge est censé dire le droit. Et la question, c'est peut-être la question du législateur. Est-ce que le droit ne doit pas évoluer, en tout cas pour des affaires comme ça ?
Mais dès qu'on va faire évoluer le droit, on sort la République, le droit, il ne faut pas toucher.
Alors peut-être Alice Carré, là, sur ce point, après je redonne la parole à Mohamed Mafri qui veut réagir à une des phrases dites par Bruno Cyr.
Oui, bon, bah, du coup, je veux bien revenir sur le constat aussi, mais du coup, on ne fait pas le même constat de base, je pense.
Oui, je suis d'extrême droite, rassurez-moi.
Non, j'ai dit ça déjà, mais je ne vous connais pas bien, donc je ne peux pas dire que vous êtes d'extrême droite.
Procès d'intention, allez-y, Alice Carré, allez-y.
D'intention, exactement. Effectivement, si on repart de Mayotte, comme vous l'avez dit, moi, je ne pense pas que le problème à Mayotte, ça soit spécialement l'immigration. Je pense que c'est surtout la pauvreté qui est extrêmement forte là-bas. C'est aussi le fait que c'est un État quand même qui a à un moment voulu être attaché à la France alors que les Comores ont voulu leur indépendance. Donc forcément, il y a un passif qui fait que les personnes sont très liées entre elles, qu'elles ont aussi envie de venir. Oui, maintenant,
c'est un
département français.
Vous pensez que les Comoriens qui viennent à Mayotte, c'est parce qu'ils ont de la famille,
ils ont des liens très forts, en fait, dans cet archipel aussi. Mais bien sûr, c'est un énorme problème qu'il y ait des Comoriens qui viennent, parce que le niveau de vie n'est pas du tout le même. Et donc, il y a des inégalités qui sont extrêmement fortes entre les Comores et Mayotte, et entre Mayotte et la France hexagonale. Donc, on est à un niveau d'égalité qui est extrêmement fort, et c'est ça plutôt qu'il faudrait combattre. C'est ces inégalités qui sont vraiment une grosse problématique. Et effectivement, les Maorais se mobilisent contre l'immigration parce qu'ils ont de base des mauvaises conditions de vie. Donc, au lieu de, de, d'essayer de nous combattre l'immigration là-bas, essayons déjà d'améliorer leurs conditions de vie, de faire en sorte qu'ils...
Alors, l'adoption, il y a une loi qui a été adoptée pour restreindre le droit du sol à Mayotte, pour traiter le problème qui est actuellement là-bas. Est-ce que vous pensez quand même qu'on peut rediscuter les critères, la définition du droit du sol sur le territoire national, comme ça peut être le cas à Mayotte, ou est-ce qu'il faut le laisser tel qu'il est aujourd'hui ? Il est hors de question d'en parler.
Alors, déjà, moi, ça me gêne un peu, effectivement, que Mayotte, ça soit un laboratoire expérimental pour certaines mesures. Voilà, ça me gêne déjà.
Mais est-ce que c'est pas ensuite, pour répondre à une situation qui est dramatique aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'on fait ? On bouge pas, alors.
Alors, bien sûr, vous l'avez dit, le droit, c'est quelque chose qui peut évoluer, mais c'est pas la peine, dès qu'il y a un fait divers, de vouloir faire évoluer le droit.
Ah, vous trouvez que c'est un fait divers ?
Il faut faire des... Non, je parle pas de Mayotte, là. Je parle de l'affaire Boualem. Je pense qu'effectivement, le droit peut évoluer, mais c'est à partir d'études, d'auditions, de vraiment d'enquêtes au long cours.
Donc, en fait. On peut quand même ouvrir une discussion. C'est ça ma question. C'est oui ou non. Est-ce qu'on peut ouvrir une discussion ? Est-ce qu'on peut redéfinir éventuellement le droit du sol en France sans passer forcément par un référendum ? Mais en tout cas, est-ce que législativement,
pourquoi pas un référendum ?
on peut ouvrir cette discussion ?
Ça serait un bon sujet pour un référendum.
En fait, c'est juste que j'ai l'impression que ça fait vraiment 40 ans qu'on essaye de résoudre le problème. Enfin, on peut l'appeler comme vous voulez, c'est un problème, une chance, l'immigration, par des lois, par une évolution du droit. Et en fait, est-ce que ça a amélioré la vie des Français ? Ben, je ne pense pas. Est-ce que ça a amélioré surtout la vie des personnes étrangères en France ? Je ne pense encore moins. Et pourtant, c'est des personnes qui sont... vous l'avez dit tout à l'heure, qui travaillent pour, dans beaucoup d'endroits. Il y a 17% des médecins hospitaliers qui sont des immigrés. C'est 39% des employés de maison, 24% des ouvriers non qualifiés. C'est des personnes qui font quand même tourner l'économie française. Donc c'est quand même très important.
Il y a une capacité, c'est ce que je disais. On a une capacité d'accueil.
Alors ce qui est terrible, c'est qu'on a 5 millions de chômeurs et précaires en France. Ouais. Et là, vous cherchez l'erreur.
Après, il y a d'autres solutions pour le chômage, pour le travail.
Je vais revenir sur plusieurs propos qui ont été tenus. Il faut écouter Estelle Youssoufa, là. La députée
Ilott,
ouais, c'est ça, Ilott, là, qui vraiment, dans ses propos, voilà, on ne peut pas taxer le racisme non plus, le racisme, il est compliqué à définir, mais là, sur l'avoir écouté longuement, parce que bon, c'est la députée du département, en tout cas, et où les Mahorais, avant même cette tempête qui a soulevé donc tout ce sujet, toute cette difficulté, avait tiré la sonnette d'alarme en expliquant le conflit. Vous l'avez un peu abordé tout à l'heure sur l'historique entre les Comores et Mayotte, et où cette île a été multipliée par 4 en termes d'habitants, et avec un seul centre hospitalier. Et donc ce sujet-là, au bout d'un moment, humainement, c'est même pas être raciste ou être d'extrême droite à dire ça, humainement, il faut poser le sujet sur la table. Il faut sortir de cette impasse. Alors, on sait qu'on ne peut pas tout cadenasser, tout fermer, etc. On sait que c'est les solutions des barrières, etc. Bon, maintenant, le sujet, il doit pas être tabou. Voilà. Il faut écouter les Mahorais, en tout cas. Il faut les entendre, parce que c'est eux qui souffrent, c'est pas nous.
Et c'est aussi des investissements dans des infrastructures qui sont
nécessaires. Oui, oui, les infrastructures à l'adéquation avec la population.
Il faut voir aussi la taille,
c'est très minuscule. C'est minuscule. Donc voilà, ce sujet-là, il mérite aussi analyse et surtout d'attendre la souffrance des Mahorais qui, eux, n'en peuvent plus d'entendre des postures à l'Assemblée nationale où on voit des députés, je pense aux députés LFI, qui disent tout n'importe quoi sur ce sujet-là, alors qu'eux, ils demandent à vivre simplement et dignement comme dans un État ou d'un département français. Ils ne se sentent pas français. Voilà. Donc ils se sentent citoyens de seconde zone. Et ça, il faut l'entendre. Voilà. Autre sujet, vous l'avez dit, M. Cyr, tout à l'heure, à l'introduction, en effet, c'est vrai que ces appareils politiques, ils ne nous aident pas actuellement. Oui, c'est plus les appareils politiques, les appareils politiques que je qualifierais populistes, il y en a partout à gauche et à droite, mais qui figent le débat. C'est vrai. C'est vrai, je plaisantais à M. Dupri plusieurs fois en lui disant, M. Dupri, attention, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous traiter de raciste. Ça va être rapide. Voilà. Et tristement, j'ai dit ça il y a 2 ans, avec de l'humour. Sauf que plus on avance dans le temps, et plus je m'aperçois, et je vois même des politiciens quand même qui ont une certaine expérience, qui rentrent dans ce jeu-là, parce que d'abord, ils paraissent intellectuels, comme c'est pas permis, on ne travaille pas, on ne réfléchit pas, et on fait une punchline, c'est plus rapide, et tristement parfois ça menace, mais ça atteint ses limites. Et j'étais très heureux de voir les élections municipales partielles de Villeneuve-Saint-Georges, où en effet, on avait le pro de la punchline sur les réseaux numériques. Qui pensait pouvoir gagner ?
Vous parlez de Louis Boyard.
Ouais, exactement. Qui pensait, au mépris de ses alliés personnels, en plus ?
Oui, il pensait gagner.
Après ses alliés, pensait gagner au premier tour, et puis en méprisant les gens, etc., en instrumentalisant l'élection municipale, une élection internationale. C'était n'importe quoi pour moi. Alors qu'il ne traitait pas les sujets des habitants de cette ville, que je ne connais pas personnellement. En tout cas, je sais qu'arithmétiquement, c'est l'une des villes les plus pauvres de France, qui ne méritait pas ce sketch-là. Voilà. Et donc, j'étais très heureux de voir quand même que politiquement, ça n'a pas matché. Voilà. Alors que tous les clignotants étaient ouverts pour lui, avec une dissidence pour la liste, la liste qui allait remporter l'élection. Voilà. Donc, en effet, vous l'avez dit, M. Cyr, tout à l'heure, ça n'aide pas de pouvoir débattre plus sereinement, plus posément. Quand moi, j'insistais sur les valeurs de la République, moi, j'y crois parce que moi, j'ai baigné dans ça et je connais une énorme communauté autour de moi qui a baigné dans ça très tôt et ça a du sens, même si ça a l'air philosophique à vos yeux, etc. Mais je pense qu'à mon avis...
le droit du sol n'est pas une valeur de la République. Les valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Et laïcité.
Je ne le conteste pas. Mais
c'est ça, les valeurs.
Oui, mais il y a une...
Alors, on peut en parler, parce que la liberté dans ce pays, on en a de moins en moins. Les Verts sont très forts pour nous mettre des interdits partout. Ils veulent interdire la
chambre. Tous les Verts.
Ils veulent interdire les voitures.
Il y en a certains qui sont intéressants.
Ils savent faire de ça.
Ils sont minoritaires dans leur mouvement, mais certains sont intéressants.
L'égalité, parlons-en. On ne parle que de favoriser les communautés, les sous-communautés qui sont... Vous voyez encore, on vient de nous dire à Mayotte, il faut les traiter à part, il faut... Non, la France, l'égalité de droit, tout le monde doit avoir les mêmes droits. Quant à la fraternité, ne me parlez pas de lutte des classes. Si vous me parlez de fraternité,
non, c'est... Non, je vous donne deux autres un ordre d'exemple intéressant et qui... Je vous cache pas que je commence à être un peu pessimiste. Hein. Mais quand je vois la ville de Bordeaux, le maire de Bordeaux, M. Pierre Urmic, Europe Écologie Les Verts, sur deux sujets, redevenir pragmatique. Un, Iria Ramsaponis municipal. Deux, un sujet alors qui est peut-être passé sous les radars, mais qui moi, pour moi, relève que par moment, quand on est un politicien pragmatique et honnête intellectuellement, électoralement parlant, même si parfois ça ne paie pas, mais au bout d'un moment, ça paiera. L'histoire de l'éclairage public. Ouais. Voilà. L'éclairage public qui était un dogme, voilà, posé par un certain courant écologiste, hein, pas tous, en expliquant qu'il fallait faire des économies coûte que coûte, alors que plusieurs mouvements féministes commençaient à dire « Attendez, vous êtes bien gentils,
oui, mais c'est dangereux
en soirée, etc.
Ouais, »
etc.
Ouais, pour les femmes, oui.
Donc, certains maires sont obtus fermés, ne rien entendre. Je pense au maire de Grenoble, par exemple. Mais Pierre Humic, lui, il a vite compris qu'il avait tout intérêt à vite changer de braquet. Donc voilà, sur le sujet de l'armement de sa police municipale, sur les sujets de l'éclairage public et toujours sur le prisme de la sécurité et notamment des femmes en sortie la nuit, voilà, il a changé de braquet. Donc maintenant, moi je ne suis pas là pour convaincre les écologistes, hein, mais j'ai envie de dire, sur les sujets encore une fois régaliens, forts comme celui qu'on traite ce soir, il va falloir avoir de l'honnêteté et intellectuelle et surtout être ferme sur les valeurs de la République. Le maire de Montpellier l'a fait. Il n'est pas d'extrême droite. Pourtant, il s'est fait traiter d'extrême droite par tout la France insoumise. Il aura une adversaire France insoumise que pour ça, accompagné de certains écologistes, malheureusement. Voilà. Donc, moi, je pense qu'à mon avis... Je pense
qu'on est d'extrême droite.
Non, pas tous. Les lignes peuvent bouger. Les lignes peuvent bouger.
Bon, comme on a parlé beaucoup des écologistes, juste à l'Iscaré, là, sur, par exemple, les décisions qu'a pris Pierre Rumier à Bordeaux, vous adhérez à ce qu'il a fait ? Vous le soutenez ?
Je le soutiens parce que c'est un maire écologiste, donc forcément...
On ne peut pas être d'accord, mais lui...
Oui, enfin, bon, je pas dit que parfois, entre vous, vous n'êtes pas d'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont écologistes sans être au parti écologiste.
Sur ces décisions, et notamment pour la sécurité des femmes, j'imagine que vous ne pouvez pas être insensible à ça.
Mais c'est un vrai débat, en fait, de réfléchir à la lumière, en fait, dans la ville. Comment elle est orientée ?
Félicité par l'opposition, quand même, de droite.
Comment on fait, en fait, effectivement, pour concilier à la fois écologie... sécurité des femmes, des cyclistes aussi, hein, je peux ajouter. Des citoyens en général, parce qu'effectivement, c'est quand même, on se sent plus en sécurité quand il y a de la lumière. Mais c'est aussi, en fait, une représentation qu'on peut avoir, parce que le noir, ça fait peur, parce qu'on l'a appris, etc. Et après, il y a aussi
Ah, parce que si on l'avait pas appris, vous n'auriez pas peur dans le noir toute seule le soir.
Non, mais on sait bien que les rues enfin, mal éclairées, noir, malheureusement, c'est plus propice à des agressions. On va dire, il n'y a pas besoin d'avoir.
Vous croyez que c'est
après,
parce qu'on
les femmes, elles se font beaucoup plus agresser par des gens qu'elles connaissent que par des inconnus dans la rue, ah. En fait.
Oui.
Ça c'est des statistiques. Hein.
Non, on peut dire ce qu'on veut aux statistiques.
Mais moi, je pense que la lumière, effectivement, dans la rue, c'est quelque chose qui est très important. Et il faut l'avoir en tête, bien sûr, pour la sécurité de tous et toutes.
Alors, juste pour terminer, là, on a évoqué le sujet rapidement. Gérald Darmanin, lui, il souhaite que la question du droit du sol soit un des thèmes forts de la prochaine présidentielle. Et il a même évoqué la possibilité d'organiser un référendum sur le sujet. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qu'il faudrait faire? Après vos premières interventions, j'ai l'impression que non. Mais bon, est-ce que vous êtes complètement fermé à cette idée?
Je réponds.
D'abord,
je pardon, excusez-moi. Pardon.
Mesdames, d'abord.
Excusez-moi, monsieur.
Sur ce coup-ci, je ne suis pas d'accord avec vous.
Merci.
Oui, parce que moi, du coup, je pourrais aussi vous traiter de sexiste si vous n'êtes pas d'accord
voilà,
avec
oui,
moi.
Voilà, j'essaie d'éviter
du
tous
coup,
les
vous
coups.
Vous serez d'accord avec moi.
Mais voilà.
Alors, moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément la bonne thématique pour les présidentielles, parce qu'il y a d'autres choses qui intéressent beaucoup plus les Français. Oups. C'est le pouvoir d'achat, notamment. Merci. C'est leurs fins de mois qui sont compliquées, c'est l'écologie aussi, l'éco-anxiété qui peut inquiéter beaucoup de monde, mais la principale c'est vraiment la santé d'eux-mêmes et de leurs proches aussi. Ça c'est vraiment des thématiques qui intéressent les Françaises et les Français, mais et je pense que ça serait beaucoup plus intéressant de se focaliser sur ces thématiques.
Alors ça c'est pour la présidentielle, mais l'idée d'un référendum qui serait avant évidemment ou après, je ne sais pas, ça peut être dans le programme d'un des candidats, vous êtes contre un référendum sur le droit du sol, tout ce qui touche à l'immigration de manière générale? Ou qu'est-ce que c'est qu'être français?
Moi, je ne suis pas forcément contre, en soi, faire des référendums pour consulter la population, mais il faut juste bien poser le débat, je pense, et prendre le temps de faire aussi un débat éclairé en donnant la parole à
un peu tout
le monde.
Avant le référendum, il faudra que tout le monde puisse s'exprimer, ça c'est
voilà,
sûr.
Voilà, ça mais... c'est quelque chose qui se fait quand même sur du temps long.
Mohamed Mafri.
Alors, sur le référendum, moi, je reste dubitatif, je reste perplexe. Oui, je le dis, oui, ce sujet-là, qu'est-ce que c'est être français, les sujets de l'immigration, etc. Ces sujets-là, qui peut contester que ces sujets-là sera en tête de gondole lors des 2020, même des élections municipales?
Tous les sondages de
je veux dire, voilà. Donc, voilà. Donc moi, j'aurais aimé que ce soit l'écologie qui soit en tête de gondole, mais je suis désolé. Mais moi, quand je l'évoque, etc., ça, bon, ce sujet-là, je vous donne un exemple, vous allez voir, vous allez bondir peut-être, mais quand je parle de ZFE, ça fait pas rire, hein. Voilà,
les zones à faible émission.
Ça le fait pareil. Quand je vais dans mon quartier, moi je suis à Blagnac, je suis j'ai un quartier petit de la ville, au Baradel. Quand je leur parle de ZFE, je veux dire.
Ils ont pas les voitures qui leur permettraient
ouais,
de.
Voilà. Il faut allier justice sociale et écologie. Et ça, c'est
oui.
Tout un débat qu'il faut.
J'aurais espéré que moi, les écologistes l'abordent beaucoup plus tôt parce que c'était quand même de leur ressort. Mais là, c'est vrai que là, leur ressort, l'écologie, c'est le ressort de tout le monde. C'est pas le ressort d'un parti. Hein. Mais ouais, ouais. Pour moi, mais ce sujet-là, voilà. Concernant le sujet du référendum, j'ai peur que ce sujet-là. Il faut trouver la bonne sémantique et la bonne question. Moi, je suis plutôt. J'espère que les partis, tous les partis, et notamment à gauche, vont se saisir de ce sujet-là. Voilà. Pour éviter les postures, excusez-moi, à 2 balles ou à 2 euros, comme vous voulez, classiques qu'on connaît depuis les débuts des années 80. Nous sommes le parti de contre l'extrême droite. Lutter contre l'extrême droite, ce n'est pas un projet politique. Voilà. Je le dis franchement. Ce n'est pas un projet politique. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Je suis très content d'entendre. Je cite pas les élus de droite. Je vais citer quelques élus de gauche. Comme ça, au moins, voilà, c'est équilibré. Mais quand j'entends Karim Boimran, quand j'entends M. Delafosse, M. Rebsamen aussi, etc., le faisait aussi. Bon, voilà. Et c'est pas, ça ne doit pas être un sujet tabou. Sémantiquement parlant, ça va être trop compliqué. Moi, je suis partisan pour un référendum. Comme il n'y a pas eu de référendum depuis de nombreuses années en France, je pense que dans la pratique, il faut trouver un sujet. Moi, je pense notamment à la fin de vie. Ça pourrait être un sujet intéressant. Voilà, la fin de vie. Concernant l'immigration, ce sujet-là, de toute façon, il sera sur la table, quoi que ce soit, référendum ou pas. De toute façon, tous les partis sont dans l'obligation de l'évoquer.
Position,
et je dirais même à gauche, j'ai presque envie de dire, et pourtant, vous avez senti dans ma voix que je n'ai pas trop d'empathie pour la France insoumise. J'avais envie de dire à certains, si vous prenez par exemple les 10 circos ici, eux qui prétendent être les représentants des couches issues de l'immigration, zéro candidat issu de l'immigration en tête de gondole. Zéro. Y compris suppléant. Zéro. Voilà. Donc maintenant, voilà, si on veut vraiment que la politique sorte de ces dernières statistiques qu'on a vues, qui sont sortis quand même hier ou avant-hier, où les gens ont une méfiance totale. Et je peux le comprendre. tristement. Voilà. Bon, il n'y a que les élus locaux qui s'en sortent un petit peu, et encore. Et encore. Maintenant, il est temps vite de remettre de la vraie politique sur la table, de parler sincèrement, sans être vulgaire, bien sûr, en respectant la loi Guesso, etc., ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'aucun sujet doit être tabou, parce que sinon, c'est les deux parties, les deux extrêmes qui vont... Enfin, c'est pas les deux extrêmes qui vont l'emporter, c'est surtout l'absentéisme et le...
La non-participation.
Voilà, quand on voit le peu d'adhérents qu'il y a dans les partis politiques, etc. Voilà.
Bruno Cyr, vous, un référendum sur le droit du sol, c'est quelque chose qu'on peut envisager ?
Oui, je pense que c'est une bonne idée, parce qu'il est temps de se remettre en phase avec ce que pense la majorité des gens dans ce pays sur un certain nombre de sujets. Donc, si vous voulez, on ne peut pas vivre que de sondages. Il y a un moment où il faut qu'il y ait un acte positif où les gens vont voter pour s'exprimer sur des sujets qui sont des sujets de débat dans notre société. Or, l'immigration est un vrai sujet qui ne concerne pas que la France, qui concerne toute l'Europe, et pas que l'Europe d'ailleurs, il y a d'autres pays qui ont la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on a une natalité qui est dramatiquement faible, nos populations ne se renouvellent pas, vieillissent, et c'est sûr qu'on a besoin, en revanche, d'avoir vis-à-vis de continents comme l'Afrique, où il y a une très forte natalité, des relations qui soient des relations de partage. Mais tout ça, il faut le réguler, si vous voulez. Il ne faut pas que les gens viennent dans ce pays avec l'absence de volonté de vouloir s'intégrer. Moi, je suis très actif dans une association, une ONG qui fait de l'insertion pour les gens en difficulté. Eh bien, on accueille des gens, on leur propose des cours de français. Il y a des gens qui ne veulent même pas apprendre le français. Donc, c'est quand même un problème, si vous voulez. Si vous arrivez quelque part et que vous dites « ce pays ne vaut rien », mais pourquoi vous venez ?
Ça, monsieur, donc, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer sur les pays scandinaves. C'est un impératif. Et c'est des pays à gouvernance de gauche.
Sociaux-démocrates.
Ce sont des choses qu'il faut avoir le courage de mettre honnêtement sur la table, avec bon sens, et surtout en connaissant les limites de notre capacité d'accueil dans de bonnes conditions. Parce qu'après, l'autre solution, c'est de faire du commerce avec ces pays-là, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait dans des pays en voie de développement des entreprises, du travail qui se crée,
une coopération internationale,
et que nous fassions des échanges avec eux. Et moi, je suis assez inquiet de voir la fermeture qu'on est en train d'opérer, l'Amérique du Nord, mais la Chine aussi, l'Europe avec, etc. Bon, c'est à contresens. Alors, je reviens à la question du référendum, parce que c'est une question plus compliquée que ça. Les référendums, pourquoi il n'y en a pas beaucoup ? Parce qu'on sait très bien qu'en fait, sur les référendums, on ne répond jamais, oui, ou la plupart des gens ne répondent pas à la question, mais ils répondent, ils disent oui ou non à la personne qui a posé la question. Donc c'est très difficile à manier. Et en plus, il y a une mauvaise expérience, c'est qu'il y a eu un référendum sur l'Europe il y a quelques années,
sur le traité
de Maastricht. Les Français se sont exprimés.
Il y a 20 ans.
Et puis, finalement, on a fait l'inverse de ce qu'ils avaient demandé. Donc c'est vrai que, c'est des choses à manier avec beaucoup de doigté et de précaution. Ouais, et je pense que le président Macron souhaite faire un référendum. Mon analyse personnelle, mais peut-être que l'avenir me donnera tort, c'est que c'est une façon élégante de démissionner pour lui. C'est-à-dire qu'il va faire un référendum, quel que soit le sujet. Les gens vont répondre, il sait très bien, il est suffisamment intelligent pour avoir compris ça, les gens vont répondre oui ou non à M. Macron, donc il risque d'avoir une majorité de non contre lui, quelle que soit la question, et il aura un grand élan gaulien en disant ah « ben, puisque c'est ça, je démissionne ». Moi, je l'interprète comme ça, mais
je déteste parier.
L'avenir me contredira peut-être.
Non, c'est un problème de formalisme et de fond. Un sujet fédérateur comme la fin de vie, je ne suis pas sûr qu'il soit obligé de démissionner.
D'abord, la fin de vie, c'est un vaste sujet. Il y a deux choses très différentes. Il y a les soins palliatifs.
Oui, alors on ne va pas rentrer.
Il y a l'euthanasie.
On le fera s'il y a un référendum. On le fera si effectivement il y a un référendum sur le sujet, ce qui ne paraît pas évident quand même.
Une question sur deux sujets, c'est impossible.
C'est moins compliqué que l'immigration, je pense.
S'il vous plaît, on va en rester là. Bon, de toute façon, toutes ces questions n'ont pas fini d'agiter la classe politique et même l'opinion publique. On en reparlera sans doute dans cette émission. On va faire maintenant la pause habituelle avant de nous retrouver pour un second sujet et un autre débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. Retour dans une vingtaine de secondes. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour. Je suis toujours en compagnie d'Alice Carré, Mohamed Mafri et Bruno Cyr. Cette semaine avait lieu à Paris le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Lundi, à l'issue de la première journée, Emmanuel Macron, dont nous venons de parler pour d'autres raisons, a prononcé un discours lors duquel il a appelé les Européens à un sursaut et à la mise en place de procédures accélérées pour combler leur retard dans ce domaine. Il a d'autre part annoncé 109 milliards d'euros d'investissements privés en France dans ce qu'on appelle l'IA, et ce d'ici 2031. 109 milliards destinés notamment à la construction de centres de données. Est-ce que vous voyez aussi le développement de l'intelligence artificielle comme une nécessité et l'un des grands enjeux auxquels notre pays et l'Union européenne sont confrontés? Et est-ce que vous avez le sentiment que le président de la République a annoncé les mesures permettant à la France d'y faire face? Mohamed Mafri, vous êtes délégué à la jeunesse à Blagnac. Je suis sûr que ce sujet vous passionne parce que vous devez en entendre parler.
Alors oui, je suis délégué à la jeunesse et je fais un petit clin d'œil à future élection du avant les élections municipales, future élection du conseil municipal des jeunes. Bon, allez, stop la pub.
On salue les jeunes de Blagnac.
Voilà, merci. J'ai presque envie de faire un petit peu d'histoire sur le sujet de l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les années 80, on a démarré donc le Minitel. Quelques sujets numériques sont arrivés aussi, Internet arrive, etc., etc.
Petite Salice Carré qui est très jeune.
Elle a pas du quoi.
Une part ce dinosaure.
Un peu de respect, s'il vous plaît. Et déjà à l'époque, bon, j'étais un jeune garçon, et j'entendais déjà, oui, c'est la fin du monde, c'est l'état orwellien qui arrive, 1984, on va tous être.
Plus il y avait la conjonction des dates. Hein,
voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et puis la chanson de Rhythmix, 1984.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Et le film qui,
va avec, etc. Et Big Brother, et tout ce que vous voulez, etc. etc. Bon. Et la fin du monde. Et la fin du monde n'est pas arrivée finalement. Et voilà. Donc tout ça pour dire en fait que c'est vrai que l'évolution a amené pour moi plus de plus-value que de moins-value. Tout n'est pas parfait. On le sait. Hein. On sait très bien ce qui n'est pas parfait, notamment vis-à-vis des mineurs, vis-à-vis des dérapages. Si on prend les réseaux numériques, réseaux sociaux actuellement, tous les dérapages en termes de sémantique, de vocabulaire, d'opinion, de délation. Voilà. L'intelligence artificielle qui arrive et qui a été impulsée depuis 2018 hein, par le président Macron, à l'ère du Macron-bashing, moi j'ai presque envie de dire sur cette approche-là, il n'est pas si mauvais que ça. Pourquoi ? Parce que dès 2018, avec plusieurs ministres dont j'ai perdu le nom, bon, bref, ont quand même pressenti la future dominance du triangle puissant hein, ou du binôme puissant États-Unis, Chine et l'Inde derrière et on a vite compris qu'on avait tout intérêt. Alors la dynamique européenne, elle est ce qu'elle est, tristement elle n'est pas assez puissante, mais en tout cas la dynamique française devait être aussi annoncée pour qu'elle ne soit pas décrochée aussi par tous les centres d'attaque qui arrivent, et puis par la dynamique quand même pucée, qu'on aime ou pas le personnage Monsieur Musk. Pourquoi cet état des lieux-là? Parce que tout simplement l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi, peut amener, et on va faire une corrélation avec ce qu'on a dit tout à l'heure, peut amener beaucoup de choses positives pour les pays industrialisés, mais pour aussi les pays en voie de développement. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement l'intelligence artificielle, Monsieur Cyr, tout à l'heure, on parlait du volet médical et de la coopération internationale qu'on devrait avoir aussi avec les pays en voie de développement, à qui quand même on prend beaucoup d'internes. Et si on veut, en termes d'éthique aussi, pouvoir, nous, répondre aux mots, sociétal que nous avons, je pense, aux déserts médicaux, on a aussi de l'autre côté ces pays-là qui ont ce besoin aussi d'accès aux soins. Et voilà. L'intelligence artificielle, c'est pas moi qui le dis, c'est le spécialiste, j'ai pu essayer de l'analyser, apporte aussi cette plus-value-là. Quelques exemples que je vais pouvoir citer: l'amélioration du diagnostic médical, la personnalisation des traitements, l'amélioration de l'efficacité des soins, l'amélioration aussi des traitements cardiaques,
de la santé.
C'est d'un des sujets sur lesquels on ne peut pas fermer et on ne peut pas s'interdire d'approfondir et d'investir. Sur la question de l'investissement, en effet, on a de l'investissement étranger. Là aussi, pareil.
Oui, alors je ne l'ai pas décliné, ces 109 milliards, mais dedans, il y a 50 milliards qui viennent des Émirats Arabes Unis.
Se pose la question de la dette de notre autonomie.
Un fonds canadien et 10 qui viennent d'une entreprise britannique. Bon. Voilà, donc il y a 80 milliards sur les 109 qui viennent de l'étranger.
Ouais. Là, pareil aussi, et ça s'appelle aussi faire de la politique, et la coopération internationale aussi, ça mérite aussi ces sujets-là, ces investissements-là aussi, de clarifier la situation avec les pays qui investissent chez nous. On sait que l'Arabie Saoudite ou le Qatar, c'est pas quand même les rois de l'égalité femmes-hommes, par exemple.
C'est un sujet, une bonne partie de notre dette, d'ailleurs.
Voilà, exactement. C'est un sujet.
Là-bas, il n'y a pas de droit du sol.
Voilà. Donc, ce sujet-là pourrait mériter aussi, mériterait aussi de poser ces réflexions-là et de aussi de se poser. La France, cinquième puissance mondiale, quatrième ou cinquième.
Plutôt septième.
Plutôt septième. Bref, elle reste quand même puissante. Oui. Se poser aussi sur l'échiquier. Et envoyer des messages forts aussi au moment où, où arrive le président américain sans scrupules et avec une légitimité, tristement une légitimité aussi, puisqu'il a été élu haut la main.
Largement.
Même. Largement. Mmh. Voilà, et ça, personne ne peut le contester. Donc, à nous de réagir. Je pense que l'intelligence artificielle, ne pas le considérer comme, encore une fois, ce que j'ai cité un exemple avec un peu d'humour, même si il faudra être vigilant, mais on a les moyens de contrôler ça. Et si je dois reprendre aussi, refaire une analogie, je repense aussi à tout ce qui a été vidéosurveillance, etc. Et où on a pu entendre tout et n'importe quoi. Et l'un dans l'autre, bon, c'est des sujets sur lesquels il va falloir investir.
Donc il ne faut pas rater ce rendez-vous. C'est ce que je comprends. Pour résumer, Bruno Cyr, alors vous avez dirigé une université, donc j'imagine aussi que c'est un sujet que vous suivez de près.
Oui, c'est un sujet évidemment qui est un sujet d'avenir. L'intelligence artificielle, il ne faut pas que l'Europe rate le coche, si vous voulez, parce que sinon on sera extrêmement dépendant des gens qui vont contrôler les centres de données, les data centers.
On est déjà sur les réseaux sociaux déjà un peu.
Donc, c'est une évolution, une révolution, si on veut, technologique qui va modifier considérablement, mais bon, ça va accélérer encore le mouvement de modification des échanges et surtout du contrôle de l'information. Or, l'information, c'est quelque chose de stratégique, tout le monde le sait. Et celui qui contrôle l'information peut contrôler beaucoup de choses dans la vie des gens. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas rater. Pourquoi est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu dans ce défi alors que l'Europe est en train de prendre du retard et donc il faut absolument faire quelque chose et la France a une épingle à jouer. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a de très bons centres de recherche universitaires dans les domaines de l'informatique qui malheureusement font des études chez nous, ce qui coûte cher aux contribuables français, et quand ils sont productifs, ils partent aux États-Unis, où finalement la France a généreusement fait cadeau de gens très très bien formés à la grande puissance américaine, ou alors c'est pareil avec les Chinois, il y a les Chinois qui viennent se former ici, qui rentrent chez eux. Bon. Donc tout ça, c'est un peu dommage, et évidemment, si on a l'intelligence pour le faire, il y a d'autres choses qu'il faut. Il faut aussi construire ces fameux data centers. Donc, c'est des investissements colossaux. Évidemment, ceux qui payent l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., il ne faut pas croire qu'ils le font sans intérêt. Hein, ce n'est pas pour nos beaux yeux.
Personne donc, ne donne de l'argent
avec le PSG.
Donc, c'est évidemment un souci, quand même. Un souci. C'est bien beau de dire on va investir, mais enfin, ce n'est pas nous qui investissons. C'est des puissances étrangères qui investissent chez nous pour contrôler l'information. Qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Vous voyez, ça, moi, ce n'est pas facile à contrôler. Hein. Vous avez dit c'est facile à contrôler. Je crois que ce n'est pas du tout facile à contrôler. Essayez d'aller contrôler M. Musk. Vous allez voir, ce n'est pas si facile que ça. Donc, et en plus, ils ont créé des monnaies qui empêchent qu'on les contrôle par la monnaie. Hein, les fameux bitcoins, c'est une façon d'échapper au contrôle des monnaies. Donc ça peut quand même porter un problème. Et puis, il y a un troisième aspect à la question, c'est ces data centers consomment énormément d'énergie, énormément. Et évidemment, les Américains, eux, ont énormément de pétrole. Il est en train de relancer la production de pétrole. Les Chinois fonctionnent au charbon, ils construisent des centrales à charbon tous les jours, ils se sont assis sur l'écologie depuis pas mal de temps. Et les Français, ils ont une carte à jouer avec le nucléaire, que n'ont pas les Allemands, parce que les Allemands, malheureusement, pour eux, ont renoncé au nucléaire, et maintenant, ils ne savent plus comment produire, ils n'ont plus le gaz russe, et ils sont complètement piégés, et l'économie allemande, c'est un problème pour l'Europe, est en train de tomber en panne à cause de ce problème de l'énergie. Donc la France, heureusement, on a un programme nucléaire qui fonctionne, on a un programme nucléaire à venir qui va être construit. Je pense que les écolos là-dessus vont continuer à s'exciter, mais c'est quand même
c'est
une énergie...
Gauche, les communistes sont pour le nucléaire.
Mais tout le monde est pour. Il y a quelques soi-disant écolos, c'est un parti l'écologie, hein. C'est pas les, les écolos, il y en a partout. Oui. Ils ont préempté le mot écologie. Donc il y a ce petit parti écolo qui fait 5 à 6% des voix les bonnes années aux élections qui va s'exciter, mais je crois que la caravane va avancer, si vous voulez. On est obligé de faire ça. Sinon, on ne peut pas faire ces data centers. C'est aussi simple que ça. On ne le fera sûrement pas avec des éoliennes ou avec des plaques photovoltaïques. Donc voilà, la France a des atouts en main. Le président Macron a raison de mobiliser là-dessus. Le souci, c'est de garder son indépendance. Ça me paraît la chose la plus compliquée.
Les investissements étrangers, ça vous fait un petit peu peur quand même.
Bah,
si
oui,
parce qu'il y en a la moitié qui viennent des Arabes.
Moi, je
ne
crois pas que les gens
viennent
ici investir pour nos beaux yeux. Quoi.
Alors, on va laisser quand même parler à Alice Carré, d'autant plus que les écologistes ont été un peu pointés du doigt. Et donc, non, parce que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu aussi au niveau environnemental, avec des bons et des mauvais côtés. Alors, vous, comment vous vous positionnez sur cette question?
Tout à fait. Alors, moi, je pense que c'est effectivement c'est un grand enjeu pour l'avenir. Et d'ailleurs, vous avez parlé du coup de ce sommet qui avait lieu à Paris. Et moi, j'aimerais parler du contre-sommet d'intelligence artificielle qui a été organisé par David Cormand aussi. Donc, David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, enfin les écologistes maintenant.
Exactement. En parallèle du sommet au Grand Palais.
Et donc, ça s'appelait ce contre-sommet réinventer l'intelligence artificielle pour une révolution numérique au service de l'humain et de la planète. Voilà.
C'est des grands mots. Hein.
C'est des grands mots, mais derrière, effectivement, comme vous l'avez dit, on voit que l'intelligence artificielle, ça a un coût humain. C'est un coût énergétique, hein, on en a parlé aussi, les data centers, par exemple,
c'est 20%
du réseau électrique irlandais, c'est quand même énorme hein, comme chiffre. Il y a 35 centres en France qui peuvent potentiellement être construits. Voilà, donc c'est aussi... l'intelligence artificielle, ça pose aussi quand même énormément de questions sur nos libertés, la démocratie,
sur des questions
l'avenir
éthiques,
des emplois, etc. Notre souveraineté, hein, vous en avez parlé. Alors bon, moi j'aimerais répondre sur peut-être le nucléaire, puisque le nucléaire, je pense pas que ça soit l'indépendance en fait énergétique, puisque pour avoir de l'uranium, il faut aller dans d'autres pays.
Non mais il y a beaucoup d'uranium.
C'est quand même dépendre aussi derrière d'autres personnes. Et puis, d'autres pays, il y a aussi des conflits qui peuvent entrer en jeu. Donc voilà, je ne pense pas que le nucléaire nous permette d'être garant de notre souveraineté.
Non, mais les data centers sans le nucléaire, on n'en fabriquera pas. Hein.
Voilà, donc il y a quand même, c'est un coût énergétique énorme, un coût environnemental. Et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des institutions qui se portent un peu garantes de l'intelligence artificielle, de la manière dont ça va évoluer et qui proposent aussi des actes un peu pour encadrer tout ça. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important d'y réfléchir. On a parlé aussi des jeunes derrière, les jeunes qui sont très sensibles à tout ça, qui peuvent, ça peut générer chez eux de la dépression, voire aller jusqu'au suicide. Hein. Il y a eu des exemples récents de jeunes qui se retrouvaient exposés énormément à des vidéos de suicide parce qu'ils avaient ou elles avaient des pensées dépressives.
Bon, ça, c'est encadrer les réseaux sociaux et tout ça. Mais,
après, moi, je peux parler peut-être un peu plus personnellement parce que moi, je travaille dans le support scientifique à la recherche à côté de ma vie politique. Et effectivement, en faisant de la recherche, des fois, on utilise de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je fais de l'océanographie spatiale. Donc, des fois, ça nous aide en fait un peu à déterminer certaines
donc,
choses.
Ça peut avoir de bons côtés
pour
des activités comme la vôtre.
Voilà, pour certaines activités. Mais pour d'autres, c'est vraiment très gênant, notamment quand il y a de l'interaction avec de l'humain. Moi, je pense que ce n'est pas possible de se dire on remplace les humains, on remplace la relation humaine avec de l'intelligence artificielle.
Alors, quand vous parlez d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle, il faut que ce soit des institutions qui le fassent. Vous pensez à qui? À l'Union européenne?
Voilà, tout à fait. Par exemple, l'Union européenne, je pense que c'est le bon niveau pour essayer d'encadrer, d'avoir des éléments communs entre tous les pays par rapport à ça.
Mohamed Mafri, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, juste rajouter. Je pense que là, on a un virage politique au sens noble du terme, à ne pas rater.
Ça, c'est une question très politique.
Oui, très politique, mais en matière d'écologie, notamment. Moi, je suis pro-nucléaire, je ne le cache pas. Voilà. Et pour moi, c'est une approche écologiste. En tout cas, c'est la meilleure approche, en tout cas sur le côté énergivore de l'IA. Et M. Cyr l'a dit tout à l'heure, mais j'ai presque envie de l'approfondir. On voit l'Allemagne s'écrouler, alors que l'Allemagne, qui quand même était la locomotive écologiste depuis plusieurs années, s'écroule, revient même au charbon. Nous, la France, on a tout intérêt... à travers la coopération internationale, même si je suis d'accord avec vous, ce ne sera pas simple de gérer les deniers étrangers, mais il n'empêche, on ne pourra pas y échapper. Donc, travailler en amont ces coopérations-là, après, c'est au rapport de force politique qui va se jouer. N'oublions pas que quand même ces pays-là, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ont besoin de nos armes. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on pourra travailler, on pourrait aussi approfondir. Je reviens sur la partie écologique. Là, pour moi, et c'est un message envoyé aux jeunes, pour moi aussi, c'est de dire aussi, oui, notre pays est soucieux de sa politique énergétique et écologique. Ça ne va peut-être pas plaire, en effet, à certains partisans de notre mouvement, mais je pense qu'à mon avis, l'approche nucléaire, et sur ce sujet-là, on a l'avantage d'avoir un bilan plutôt positif, même s'il y a eu quelques ratés, mais il est quand même plutôt positif. Et travailler sur ce sujet-là et être tête de gondole, moi, il me semble que ne pas rater le virage de l'IA tout en ayant une posture écologiste positive, ça serait quand même, oui, ce serait des bases intéressantes pour la dynamique européenne.
Voilà, bon, alors on fera sans doute un débat sur ces sujets prochainement parce que là aussi on n'a pas fini d'en parler de toutes ces questions sur le développement d'intelligence artificielle, y compris en France. C'est la fin de 782e Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à tous les trois d'en avoir été les invités. Merci aussi à Coraline Camebra qui a encore une fois assuré la réalisation de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à tous les fidèles auditeurs de cette émission. À la semaine prochaine.